France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, Emmanuel Morse-Duncan, Youtou Diego Aclopez et Olivier Deshaies. Voici la quatrième émission de notre série consacrée à la vie de Napoléon Bonaparte en musique au lendemain du bicentenaire de la mort de l'empereur. Aujourd'hui, nous évoquerons les années 1811-1812, de la naissance du roi de Rome à la Bérésina, avec des musiques de Honegger, Giordano, Kodály, Glinka, Prokofiev, Tchaïkovski, Rossini et Beethoven. Mais nous commençons par un petit retour en arrière sur l'opéra Léonore. Alors non pas la Léonore de Beethoven, autrement appelée Fidelio, et dont nous évoquions hier la création désastreuse à Vienne en 1805 devant les soldats français indifférents, mais la Leonora de Ferdinando Paer, futur maître de chapelle de la cour de sa majesté impériale Napoléon Ier.
Thank you.
1978, Edita Gruberova était accompagnée par l'orchestre de la radio bavaroise dirigé par Peter Nagg dans cet extrait de l'opéra Leonora de Ferdinando Paer, P-A-E-R. D'après une pièce créée à Paris à la fin de la Révolution, Léonore ou l'amour conjugal de Jean-Nicolas Bouilly, Paer présente son opéra en 1804 à Dresde. C'est là que Napoléon le rencontre et décide de l'employer au moment où Beethoven entame la composition de son Fidelio, de sa Léonore qu'on écoutait hier. Hier, nous avions également évoqué Gaspare Spontini, auteur de la Vestale et de Fernand Cortès, auteur d'une cantate à la gloire de Napoléon, l'Eccelsa Gara. Spontini, confortablement installé avec son épouse au château de la Muette, non loin de l'actuelle Radio France. Mais celui qui fut compositeur particulier de la chambre de Sa Majesté l'impératrice Joséphine verra évidemment son étoile pâlir après le divorce et le remariage de Napoléon. Et c'est un autre Italien, Ferdinando Paer, justement, qui fut à Vienne professeur de musique de Marie-Louise, la nouvelle impératrice. C'est Ferdinando Paer qui allait avoir le vent en poupe, d'autant que Napoléon s'était enthousiasmé pour sa musique et l'avait ramené à Paris dans ses bagages après l'une de ses campagnes. Ferdinando Paer, né à Parme en 1771, il y a 250 ans, et qui écrit la marche nuptiale du mariage de 1810. Entre parenthèses, on jouait également Iphigénie en Olite de Gluck pour ce mariage de 1810. Paer devient donc maître de chapelle de la cour de Sa Majesté impériale, puis directeur de l'opéra comique, et il va succéder à Spontini en 1812 à la tête du théâtre italien de Paris. Paer, eh bien, c'est une musique que connaissait Beethoven, qui avait apprécié en 1809 une représentation de son opéra Leonora, composé donc, je le rappelle, avant Fidelio et sur le même sujet. Les canonnades avaient littéralement assourdi les Viennois en 1809, en particulier Beethoven, déjà atteint de surdité et qui protège ses oreilles par des coussins, nous disent ses contemporains, dans la cave de son frère Caspar. Beethoven qui écrit en juillet 1809, quelques jours après la bataille de Wagram, « Quelle vie épuisante et dévastatrice autour de moi, rien que tambour, canon, misère humaine de tout genre. » Une ambiance sonore de guerre qu'il traduit au même moment dans son 5e concerto pour piano, que la postérité va surnommer l'Empereur.
Thank you.
Sur un pianoforte viennois, Johann Fritz de 1805-1810, Arthur Schoendervoort était accompagné par l'ensemble Cristofori, jouant également sur instruments anciens ou copies d'époque, le final du concerto numéro 5, opus 73 de Ludwig van Beethoven, dont le surnom l'Empereur n'est pas de Beethoven. Cette partition sera dédiée à l'archiduc Rodolphe d'Autriche et ne sera créée qu'en 1811, mais elle porte à coup sûr l'empreinte des combats napoléoniens aux portes de Vienne en 1809.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Le 15 décembre 1809, n'ayant pas d'enfant de Joséphine, Napoléon divorce. Tous deux s'étaient mariés civilement en 1796 et religieusement en grande pompe en 1804. Mais l'empereur veut un héritier. Et en plus de sa signature à la paix de Schönbrunn, l'empereur autrichien François Ier offre à Napoléon la main de sa fille Marie-Louise. La jeune femme de 18 ans va rejoindre Paris, où sa grand-tante Marie-Antoinette avait été décapitée en 1793. Elle épousera en 1810 celui que ses ennemis surnomment l'ogre ou l'usurpateur, et elle lui donnera un fils l'année suivante, le roi de Rome, Napoléon François-Joseph Charles Bonaparte, dit l'Aiglon, plus tard mis en scène par Edmond Rostand. Et bien la voici, Marie-Louise, dans Harry Janosch de Zoltán Kodály, une comédie lyrique de 1926 dont le héros est une sorte de Tartarin de Tarascon hongrois, simple hussard, fort en gueule, qui deviendra d'après lui maréchal après avoir séduit Marie-Louise et même capturé Napoléon, un Napoléon tremblant de peur. Tout cela raconté par monsieur Pierre Bertin avec une bien piteuse marseillaise.
Ce champ de bataille ne vaut rien. Il est très très mauvais. C'est un mauvais champ de bataille. On entend un petit bruit, ça doit être un coup de feu. Ah ! Retraite sur les positions, préparez à l'avance, hurle le général. Et il se sauve à toute allure. Et la sentinelle s'écrie, voilà les Français ! Arrivent deux grenadiers français. Harry tire son sabre, il exécute un parfait moulinet. Les deux Français tombent à la renverse, le souffle a suffi à les exterminer. Arrivent quatre nouveaux grenadiers qui se mettent à genoux. Ils couchent Harry en joue, mais Harry exécute un nouveau moulinet.
et ils tombent tous les quatre raides morts. Entre Napoléon, mais un Napoléon burlesque, un géant, porte un grand chapeau, le fameux chapeau, mais énorme. Napoléon aperçoit Harry. « Oh, Jésus-Marie !» s'écrie-t-il. « C'est Harry Janoche !» Et il tombe à genoux. Alors Harry s'approche de Napoléon, lui ôte son sabre. « Nous sommes vainqueurs !» dit-il à Napoléon. Et s'adressant aux Français, « Allez, emmenez tous vos morts !» Harry interroge alors Napoléon, et l'infortuné empereur prétend d'abord qu'il n'est que lieutenant, puis il finit par avouer sa véritable identité. « Oh, tu gagnes toujours les batailles, lui dit Harry, mais quand tu tombes sur des hussards, hein, tu es vaincu. Mon bon frère de Vienne le sait très bien, mais toi... Napoléon, avec un fol espoir, « Oh, je suis innocent !» Il tente de fuir. Mais survient Marie-Louise. Alors Napoléon, tremblant, se cache derrière le canon et il déclare que le chambellan Ébélastine a stupidement utilisé une lettre de déclaration de guerre. Le général autrichien entre alors et comprend avec stupéfaction qu'il a gagné la bataille. Il remet son bâton de maréchal à Harry. Marie-Louise est maintenant déterminée à profiter de la conjoncture éminemment favorable à ses desseins amoureux et elle décide de divorcer d'avec un aussi piètre époux que Napoléon. Et Harry contraint Napoléon à payer un fort dommage de guerre. L'empereur tire sa montre en or de son gousset et il la lui donne, une grosse montre en or, ce qui paraît combler les espérances du vainqueur. Et enfin, le malheureux Français, après avoir menacé Ébélastine de ses foudres, s'en va en chantant sa gloire perdue.
Je suis un imbécile, un très grand imbécile. Je suis tombé dans le fossé et le pied droit me suis cassé. Je suis un très grand.
Dieu sait s'il y a eu des caricatures de Napoléon, mais celle-là, c'est une des plus féroces, celle de Zoltán Kodály en 1926 dans ce Hari Janoch, représenté à Paris le 28 janvier 1960 dans une adaptation en français de Serge Nigue. C'est Charles Bruck qui dirigeait l'orchestre lyrique de la radiodiffusion française. Et dans le Napoléon imbécile, c'était Aimé Donia. Voici maintenant, en opposition au ridicule Napoléon de Zoltán Kodály, une œuvre qui est strictement contemporaine de Hari Janoch, c'est le légendaire long-métrage, très long-métrage, Napoléon d'Abel Gance, tourné en 1926. Et c'est en avril 27 que les spectateurs de l'Opéra de Paris ont pu assister à la première de ce film sur un triple écran, fresque malheureusement inachevée, dans laquelle se produisent Albert Dieudonné dans le rôle-titre, Gina Manès en Joséphine, Abel Gance lui-même en Saint-Just, Damia en Marseillaise ou encore Antonin Artaud en Marat. Abel Gance avait confié l'illustration musicale du film à Arthur Honegger, qui va utiliser des partitions antérieures pour ses 6 heures de film, mais aussi des créations originales, dont il nous reste une vingtaine de minutes. En voici un extrait avec tour à tour Calme, Les Ombres et Chaconne de l'Impératrice, la musique de Arthur Honegger pour ce Napoléon d'Abel Gance, c'est maintenant sur France Musique.
Thank you.
L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était dirigé en 1991 par Marius Constant dans ses partitions d'Arthur Honegger écrites pour le Napoléon d'Abel Gance, qui a fait l'objet d'une gigantesque restauration depuis plus de 10 ans, et on devrait en voir le résultat enfin à la fin de cette année 2021, 2 siècles après la mort de l'empereur. Pour rappel, Abel Gance retrouvera ce personnage de Napoléon en 1960 dans le film Austerlitz, avec l'inattendu Pierre Mondy dans le rôle de l'empereur, Orson Welles, Michel Simon, Vittorio De Sica, Jean Marais, Claudia Cardinale, Jean-Louis Trintignant à ses côtés, et puis un autre acteur issu du comique a également incarné Napoléon dans une mini-série télé réalisée il y a 20 ans, c'est Christian Clavier, avec Isabella Rossellini, Gérard Depardieu, encore John Malkovich. Ils sont nombreux les acteurs à avoir incarné Napoléon sur le petit et le grand écran. Sacha Guitry, Charles Boyer, Rod Steiger, Marlon Brando, Philippe Torton, Daniel Auteuil, etc. Et puis je vous signale qu'en 2023, on annonce la sortie d'un film de Ridley Scott sur la jeunesse de Napoléon, Kid Bag, avec Joaquin Phoenix dans le rôle de Bonaparte.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Le personnage de Napoléon apparaît aussi dans plusieurs partitions lyriques. On l'entendait lundi dans l'opérette L'impératrice Joséphine, Kaiserin Joséphine d'Emerich Kallmann, en amoureux transi. Il tremble également, mais de peur, devant le Hari Janoch de Kodály. Il sera face à l'incendie de Moscou dans le Guerre et Paix de Prokofiev, qu'on écoutera vers 14h30. Et en 1915, Umberto Giordano, auteur de l'opéra André Chénier sur la Révolution française, Umberto Giordano met en scène l'empereur face à une couturière qu'il avait connu quand il était sans le sou, c'est Madame Sans-Gêne. Voilà le surnom que Victorien Sardou avait donné à un personnage inspiré de Catherine Hübscher, qui a été repasseuse, blanchisseuse, cantinière, avant d'épouser un sergent qui va devenir maréchal d'Empire, le maréchal Lefebvre, et elle deviendra duchesse de Danzig, cette Catherine Hübscher, qui avait gardé son franc-parler, même dans la haute société, d'où ce surnom de Madame Sans-Gêne. D'ailleurs, ce surnom, Victorien Sardou l'avait emprunté à une autre femme, une femme soldat de l'Empire, Marie-Thérèse Figuer, mais ça c'est une autre histoire. Donc Madame Sans-Gêne, c'est un vaudeville de Victorien Sardou et d'Émile Moreau, créé en 1893, repris sur les planches au XXe siècle par Jacqueline Maillan, au cinéma par Sophia Loren, une pièce à succès, une pièce populaire, qui devient donc en 1915 un opéra, grâce à Umberto Giordano, sur un livret de Renato Simoni. Voici Mirella Freni dans le rôle titre, face au Napoléon Ier de Mauro Buda. L'empereur met du temps à reconnaître son ancienne couturière qui sort de sa poche une vieille facture du lieutenant Bonaparte, facture restée impayée.
Con la mia magra paga di soldato debbo è scritta da cane. Debbo aiutar mia madre che ha lasciato la Corsica.
La Corsica? Che dite? Buona parte.
E così un cattivo pagatore.
Lasciate che vi guardi. A vi ravviso, siete voi. Siete voi.
Quella buona figliola
e penso al quarto,
al quinto. Insopprendente, e ve l'avete spinto.
E poi da che ti piede sul piacere.
Ne me devra plus rien. Mirella Freni chantait le rôle de Catherine, alias Madame Sangène, dans cet opéra d'Umberto Giordano. Mauro Buda chantait Napoléon Bonaparte. L'orchestre symphonique Arturo Toscanini d'Emilie Romagne était dirigé par Stefano Ranzani. Depuis 1806, Napoléon, par le décret de Berlin, avait imposé au Royaume-Uni un blocus continental pour asphyxier l'économie britannique. Un blocus que la Russie d'Alexandre Ier décide en 1812 de ne plus respecter, ce qui va donner à Napoléon la justification d'un conflit franco-russe qui était déjà dans l'air. Une campagne de Russie qui est tout d'abord foudroyante pour les Russes, avec une avancée fulgurante des Français. Mais les grognards vont plus tard devoir subir le froid, la faim, la maladie, les poux, ainsi que la détermination du peuple russe et la force du général Hiver, alliée à celle du prince Koutouzov. Une épopée russe qui marquera en profondeur la culture russe. Napoléon face au Niemen, la Bérézina, l'incendie de Moscou, tout cela est encore très présent dans la mémoire collective russe. Et en 1834, le compositeur Mikhail Glinka met en musique un poème de Joukovski dans lequel les soldats de la grande armée se lèvent de leur tombe pour défiler devant l'empereur Napoléon.
Двенадцать часов по ночам из гроба встает барабанщик, и ходит он взад и вперед, и бьет он проборно тревогу. И в темных гробах барабан могучую будет пехоту. Встают молодцы егеря, встают старики-гренадеры, встают из-под русских снегов, с роскошных полей италийских, встают с африканских степей, с горючих песков Палестины. В 12 часов по ночам, 12 часов по ночам. В 12 часов по ночам выходит трубач из могилы, и скачет он взад и вперед, и громко трубит он тревогу. И в темных могилах труба могучую конницу будет. Седые гусары встают, встают усачи кирасиры, и с севера, с юга летят, с востока и с запада мчатся на легких воздушных конях, один за другим эскадроны. В 12 часов по ночам, в 12 часов по ночам. Двенадцать часов по ночам из гроба встает полководец, на нем сверхмундира сюртук. Он с маленькой шляпой и шпагой на старом коне боевом. Он медленно едет по фронту, и маршалы едут за ним. Едут за ним адъютанты, и армия честь отдает. Становится он перед нею, и с музыкой мимо его проходят полки за полками. В 12 часов по ночам, в 12 часов по ночам. В 12 часов по ночам он маршала всех собирает и ближнему на ухо сам. Он шепчет пароль свой лозунг, и армии всей отдают. Они тот пароль и тот лозунг, и Франция тот их пароль. Тот лозунг «Святая Елена». В 12 часов по ночам подъемлясь из темного гроба, так старым солдатам своим является кесарь усопший. 12 часов по ночам, 12 часов по ночам.
La basse Petr Novikov, chantée avec l'orchestre de chambre Musica Viva de Moscou, dirigé par Alexander Roudine. Cette mélodie de Mikhaïl Glinka sur un poème de Joukovski qui utilise une prosopopée, figure de style, en faisant parler les morts de la grande armée de Napoléon. Alors venons-en au grand chef-d'œuvre de l'épopée napoléonienne en littérature, à côté des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand et autres poèmes de Victor Hugo, c'est Vojna i Mir, la guerre et la paix, que Léon Tolstoï écrit à la fin des années 1860, ajoutant un nouveau monument à la légende napoléonienne, un roman fleuve adapté au cinéma, à la télévision, au théâtre et même en comédie musicale. Et puis il y a cet opéra que Prokofiev conçoit en 1942, après une autre invasion de la Russie, celle des troupes hitlériennes. Prokofiev écrit lui-même le livret avec son épouse Mira Mendelssohn en s'inspirant de Tolstoï. Et Mstislav Rostropovitch avait dirigé ici même à Radio France en 1986 cet opéra avec le chœur et l'Orchestre National de France en compagnie de son épouse Galina Wisniewskaya qui chantait le rôle de Tatiana et le baryton Édouard Toumagian qu'on écoute dans celui de Napoléon, un Napoléon impassible devant les obus qui tombent près de lui. Un seul mot, un seul geste de moi, et c'en est fait de Moscou, cette capitale asiatique, chante-t-il avec un certain dédain, ce Napoléon, mais on lui annonce la mort de Davout et de Compan. C'est la bataille de Borodino qui est évoquée là, ou bataille de la Moscova, 7 septembre 1812, la bataille des géants.
Москва.
Murat, Berthier, De Boisset, Béliard entourent Napoléon dans cette scène de l'opéra « Guerre et paix » de Sergueï Prokofiev avec l'Orchestre National de France dirigé en 1986 par Mstislav Rostropovitch. 250 000 hommes sont engagés dans cette bataille de la Moscova. Il y aura plus de 6 000 morts côté français, 45 000 côté russe. C'est certes une victoire française, mais une victoire à la Pyrrhus qui va conduire Napoléon devant Moscou, enflammé, disait-on, parfois par ses propres habitants, même si l'on pense plutôt que la négligence et la panique sont à l'origine de ce désastre. Cette campagne de Russie, elle est évoquée notamment par Arnaud Mazzorati dans un disque qui vient de paraître, qui s'intitule « Sainte-Hélène, la légende napoléonienne » avec les Lunésiens, un disque paru chez Museau, dont nous écoutions un extrait mardi dernier avec une machine infernale, évocation de l'attentat de la rue Saint-Nicaise. Il est question également dans ce disque de la campagne de Russie.
Il était un petit homme qu'on appelait le grand Martin. Or vous allez voir comme il revint à petit à Paris. Kéké, mes amis, chantons le renom du grand Napoléon. C'est le héros des petites maisons. Courant à perdre haleine, croyant prendre Moscou, ce grand coup. Mais ce grand capitaine n'y a vu Sarpeuge que du feu. Kéké, mes amis, chantons le renom du grand Napoléon. C'est le héros des petites maisons. Que faire dans cette ville qui n'a plus de maison qu'en charbon? Il serait difficile d'y passer son hiver en plein air. Kéké, mes amis, chantons le renom du grand Napoléon. C'est le héros des petites maisons. Sans demander son reste, et fier comme un César de hasard, dans cet état funeste, Napoléon, le grand fou de camp. Kéké, mes amis, chantons le renom du grand Napoléon. C'est le héros des petites maisons. Il laisse son armée, sans pain, sans général, c'est égal. Elle est accoutumée à manger pour égal du cheval. Kéké, mes amis, chantons le renom du grand Napoléon. C'est le héros des petites maisons. C'est ce qui vend de Russie aussi rapidement que devant sa majesté transie, s'enfuit incognito entre l'eau. Kéké, mes amis, chantons le renom du grand Napoléon. C'est le héros des petites maisons. À bon droit, on s'étonne qu'il n'ait pas fait exprès des décrets pour prolonger l'automne et supprimer verglas et frimas. Kéké, mes amis, chantons le renom du grand Napoléon. C'est le héros des petites maisons. Aux campagnes admirables, les décrets sont remplis, accomplis, son armée met au diable. Que n'en est-il autant du brigand? Kéké, mes amis, chantons le renom du grand Napoléon. C'est le héros des petites maisons.
Voilà un exemple de chanson sarcastique anti-napoléonienne qui a été redécouverte par Arnaud Mazzorati, qui chantait ici accompagné par un serpent, instrument avant joué par Patrick Vibard, extrait de ce disque consacré à la légende napoléonienne intitulée Sainte-Hélène, si sur le timbre que vous avez certainement reconnu de Il était un petit homme, et puis il y avait également une allusion au chant du départ de Méhul.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
La Bérézina, l'incendie de Moscou, la bataille de la Moscova, ces scènes dantesques ont inspiré de nombreux artistes, notamment des musiciens comme Piotr Ilitch Tchaïkovski, auteur en 1880 d'une ouverture solennelle intitulée 1812, sollicitant outre l'orchestre des percussions et des canons. Une musique religieuse annonce tout d'abord l'engagement de la Sainte-Russie et l'hymne « Dieu sauve le Tsar » viendra finalement à bout de la Marseillaise après cette reconstitution musicale de la bataille de Borodino. « Ouverture explosive et tapageuse », écrivait Tchaïkovski, écrite sans beaucoup d'amour et qui n'a probablement pas grande valeur artistique. Fin de citation. Qu'importe, laissons-nous emporter par ces boulets de canon au bord de la Moscova, avec ici l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Claudio Abbado.
Thank you.
Sur France Musique, vous venez d'entendre l'ouverture solennelle 1812 de Piotr Ilitch Tchaïkovski par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Claudio Abbado. Et nous arrivons bientôt au terme de cette quatrième émission sur Napoléon, dont l'un des grands spécialistes est bien sûr Jean Tullard, à qui nous devons des dizaines d'ouvrages sur Napoléon Bonaparte depuis 1964 avec l'anti-Napoléon, la légende noire de l'empereur, jusqu'au tout dernier qui vient de paraître chez Buchet-Chastel, Marengo ou l'étrange victoire de Bonaparte. Et puis Jean Tullard nous a laissé également un ouvrage sur Napoléon et Rossini, qui d'ailleurs le montre davantage historien que musicologue. En tout cas, cela m'a incité à vous faire entendre quelques pages d'un opéra de Rossini, créé l'année suivante, en 1813, dans ce qui était encore pour quelques mois le Royaume d'Italie, dont Napoléon était le souverain depuis 1805, son fils L'Aiglon étant surnommé le roi d'Italie. Donc c'est à Venise, en 1813, que Rossini présente l'Italienne à Alger, sur un livret d'Angelo Anelli. Opéra bouffe, certes, mais qui contient quelques allusions politiques, comme ce chœur des esclaves italiens, qui déclare « Nous tenons prêts nos épées et nos bras pour fuir d'ici avec vous. C'est dans l'épreuve que l'on verra le courage des Italiens. » Ce à quoi Isabella, ici incarnée par Marilyn Horne, répond à l'un d'eux « Les mots patrie, devoir, honneur, parle à ton cœur, suis l'exemple des autres et montre-toi italien et face aux vicissitudes d'un sort inconstant, qu'une femme t'apprenne à rester ferme. Pense à notre patrie et avec témérité, accomplis ton devoir. Vois dans toute l'Italie refleurir des exemples de courage et d'audace. »
Mi fa dispetto.
Claudio Scimone, dirigé I Solisti Veneti, le chœur philharmonique de Prague, accompagnant également la voix de Marilyn Horn dans le rôle de Isabella, un extrait de l'italienne A.G. de Rossini créé en 1813. Demain, Waterloo, Waterloo, morne plaine, ce sera la chute de l'Empire, l'exil à Sainte-Hélène, la légende post-mortem de l'Empereur, et dans quelques instants, ce sera Lionel Esparza dans Relax.
À réécouter sur francemusique.fr.